Mais tout de suite, on va parler de cinéma et on va rendre deux hommages, notamment à Micheline Prel.
La première.
Tu vois cette cravate au dessin défaire le nœud, c'est lui. Il abandonne sans délier la pire des choses. D'ailleurs, il n'a jamais eu besoin qu'on l'aime. Il a besoin qu'on le console de temps en temps, c'est tout.
11h30, 13h.
Je suis une regardeuse. J'aime la transmission des idées, des sentiments par l'image.
Dans 10 ans, toi, tu seras jeune. Moi, je serai vieille. Alors, je ne pourrai que souffrir.
Que vous dire de plus ? Le cinéma est sans aucun doute la plus belle histoire de ma vie.
Entrez sans frapper.
Ah ouais, quelle vie. Bonjour Dick Tomasovic.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
Bonjour, vous êtes notre spécialiste cinéma, mais pas que évidemment, vous êtes aussi chargé de cours, vous ne travaillez pas qu'ici. Hein. Vous êtes aussi chargé de cours en histoire et esthétique du cinéma et des arts du spectacle à l'Université de Liège. Et aujourd'hui, avec vous, on va rendre deux hommages à des personnalités marquantes et récemment disparues. Nous allons évoquer la carrière, la vie aussi, d'une comédienne française morte plus que centenaire, hein, Micheline Prel, est décédée il y a quelques jours, quelques semaines. Elle était née en 1922, décédée en 2024. Le calcul est vite fait. Puis juste après, on parlera aussi du mangaka Akira Toriyama, le créateur de Dragon Ball, qui est décédé le 1er mars. Mais commençons par Micheline Prel, qui était une immense star hein, dans les années 30-40 jusqu'aux années 60, comme Michel Morgan et Daniel Darieux d'ailleurs. Elles étaient un petit peu une espèce de trio d'actrices qui ont vécu longtemps et qui ont marqué le cinéma. Parlez-nous de Micheline Prel, qui fut la doyenne du cinéma français.
Oui, à la fois donc la Benjamine de ce trio que vous venez d'évoquer, ouais, aux côtés, ouais, de Daniel Darieux et Michel Morgan, et en même temps en effet la doyenne, puisqu'elle s'est éteinte le mercredi 21 février dernier, à l'âge donc très respectable de 101 ans. Micheline Prel, elle n'a peut-être pas la grande filmographie éblouissante, quantitativement, qualitativement, de Daniel Darieux, qui avait été notamment sublimé par Max Ophüls. Ça n'a pas non plus le statut légendaire que Michel Morgan a eu très rapidement avec Le Quai des Brumes, par exemple, et quelques plans où il y figurait. Mais elle est devenue une vedette très jeune, à 18 ans. Grâce notamment à Bellegance, on y reviendra. Elle va le rester durant tout le temps de l'occupation, juste après la libération. Il y aura moment de mou, et puis elle reprendra une carrière un peu plus vive. Mais ce qui lui a manqué au total, c'est une vraie carrière internationale, la rencontre avec un grand metteur en scène qui aurait fait d'elle son égérie, ou encore la participation à un chef-d'œuvre canonisé de l'histoire du cinéma. Mais cela dit, ce manque-là, Micheline Prel l'a compensé par une forme d'immense curiosité, je dirais, qui l'a conduite à multiplier vraiment beaucoup d'expériences au cinéma, en télévision, au théâtre, dans des projets souvent inattendu. Hein. Par exemple, à plus de 50 ans, elle se produit en compagnie du fameux grand Magic Circus de Jérôme Savary, un spectacle un peu fou à l'esprit 68-art. C'est quand même assez étonnant pour une figure qui était devenue extrêmement célèbre à ce moment-là, grâce au succès des Saintes Chéries. On a un peu entendu le générique.
Exactement. Tout à l'heure. Aux côtés de Daniel Gélin.
Exactement, oui. Ouais. Et elle va occuper en fait une position assez particulière dans le cinéma français, un peu entre deux mondes. C'est quelqu'un qui vient des studios de la qualité française, comme on disait, un cinéma très écrit, très classique, auquel elle est donc restée associée pour toujours. Et en même temps, elle a toujours eu le goût de l'innovation, de la jeunesse, de la nouvelle vague, qui ne voulait pas vraiment travailler avec elle. Elle était un petit peu entre deux mondes, elle ne voulait pas choisir. Et lorsqu'on va lui demander bien plus tard ce qu'elle pensait du cinéma classique français dans lequel elle a trouvé ses premiers rôles, elle va vraiment signaler la vigueur de ce cinéma-là et encenser une série de cinéastes qui étaient à ce moment-là un peu mal aimés, comme Autant Lara, Allégret, Christian Jacques, Delannoy. Et à côté de ça, quand elle est membre du jury au Festival de Cannes en 59, c'est elle qui récompense d'un prix de la mise en scène Les 400 coups de François Truffaut. Donc on voit qu'elle était surtout, dans le fond, une actrice extrêmement libre, hein, et qui a fait un nombre incalculable de films, un certain nombre oubliable, mais quand même un parcours très impressionnant.
Oui, bah justement, parlons de ce parcours et de ses premiers pas. Hein, commençons par le début, jeunesse, et début de carrière assez remarqué et assez remarquable.
Oui, alors très vite, en fait, elle se prend de passion pour le cinéma. C'est sa grand-mère qui l'entraîne au cinéma. Elle veut faire du théâtre, elle veut faire du cinéma. Elle va très vite tenter sa chance lorsqu'on a besoin de jeunes figurantes. Elle a fait un peu de théâtre aux côtés de Serge Reggiani dans une pension à l'école, mais c'est à peu près tout. Et elle est repérée, elle va faire des films aujourd'hui complètement oubliés, je ne les connaissais même pas avant de me plonger dans la filmographie, comme La Fessée de Pierre Caron ou Petite Peste de Jean de Limur. Voilà, je ne sais pas ce que c'est. Mais en tout cas, à 18 ans, elle est repérée par Georges Wilhelm Pabst, qui est alors en France, on était en 1939. Il lui confie un rôle important dans Jeune fille en détresse. Et elle joue une pensionnaire qui est délaissée par ses parents, ce qui est un petit peu son rôle dans la vie, en fait. Et cette pensionnaire, elle est nommée Jacqueline Prel. Et c'est le nom qu'ensuite elle va décider de conserver comme patronyme, comme pseudonyme, comme nom un peu porte-bonheur, qui lui amène vers un autre film. Alors cette fois-ci, c'est Paradis perdu, on est en 1940, d'Abel Gans. Et c'est un drame sentimental tout à fait intéressant, une sorte de mélo un peu avec Gans. Enfin, Gans n'est pas vraiment très à l'aise le mélo, mais il se plie à la règle. Il fait jouer à Micheline Prel un double rôle. D'une part, elle est Janine, une femme de poilu, c'est-à-dire un soldat de Première Guerre mondiale, donc, qui se tue à la tâche dans une usine à munitions. Elle meurt en mettant au monde la petite Jeannette. Et bien des années plus tard, quand l'histoire reprend, cette Jeannette a grandi et son père, en fait, retrouve en elle les traits de sa mère. Et donc, Micheline Prel va interpréter ces deux rôles, la mère et la fille. Et elle va pouvoir déployer un registre assez impressionnant, une personnalité singulière. Et très vite, en fait, elle va devenir une petite coqueluche à ce moment-là, d'autant que Michel Morgan part pour les États-Unis, que Daniel Darieux est obligé de tourner pendant l'occupation. En deux mots, son mari est soupçonné d'espionnage, donc elle est à résidence. Et donc, si j'ose dire, sous l'occupation, Micheline Prel a vraiment le champ libre.
Ouais. Elle devient une valeur sûre, justement, pendant cette occupation.
Oui, c'est vraiment la nouvelle vedette dont le cinéma français avait besoin à cette époque-là. Elle joue avec Marcel L'Herbier, enfin pour Marcel L'Herbier, pour la caméra de Marc Allégret. Beaucoup de films s'enchaînent. Elle vit en fait retranchée en zone libre à Cannes, une certaine partie de cette occupation, mais elle va toujours refuser de travailler pour les productions de la Continentale, qui est la société mise en place par l'occupant. Elle ne fera pas le fameux voyage à Berlin, celui qu'on appelait le train de la honte, où beaucoup de personnes de l'industrie du cinéma sont allées se compromettre, si je puis dire, auprès des Allemands. Et quand les Alliés vont débarquer, eh bien, elle continue de tourner assez tranquillement, et elle tourne notamment dans le Falbalas de Jacques Becker, où elle incarne une jeune bourgeoise, qui s'amourache un peu de couturier parisien. Et elle le fait avec beaucoup d'ironie et en même temps de fragilité. Elle continue à développer son personnage. Boule de Suif, en 1945, sort de Christian Jacques, dans l'atmosphère patriotique du moment. Et on voit que, malgré un physique plutôt fluet, Micheline Prel arrive à tenir des rôles très forts. Et dans Boule de Suif, une prostituée qui affronte l'occupant.
Alors, vous disiez, elle n'a pas fait des grands films. En même temps, elle en a fait des très très grands. Notamment, en 47, Le Diable au corps, avec un certain Gérard Philippe. Et c'est un film qui va faire scandale à l'époque.
Ah oui, on lui reproche carrément d'avoir porté atteinte au moral de la nation. Pour avoir fait quoi ? Pour avoir finalement incarné une femme fiancée à un soldat qui est mobilisé sur le front. Et pendant qu'il est mobilisé sur ce front, la jeune femme s'éprend passionnément d'un lycéen. Alors, c'est une adaptation de Jean Orange et Pierre Bosse, qui sont les grands scénaristes de l'époque, du fameux roman de Raymond Radiguet, qui était déjà un roman extrêmement scandaleux et un peu autobiographique. En vérité, le film, c'est la volonté même de l'actrice. C'est-à-dire que Jean Cocteau avait offert ce roman à Micheline Prel, qui l'avait beaucoup apprécié. Et lorsque son producteur cherche à lui trouver une adaptation qui pourrait la mettre en valeur, c'est elle qui propose Le Diable au corps. Ouais. Et c'est elle qui suggère aussi Gérard Philippe, dont la gloire commence un petit peu à poindre. Les deux acteurs ont le même âge, ils ont 24 ans à peu près à ce moment-là. Gérard Philippe essaie de se faire passer pour un lycéen. C'est un peu difficile, mais c'est vrai qu'il fait très jeune. Dans le film, il prétend avoir autour de 17 ans. En vérité, dans le roman, le personnage n'a que 15. Le film, à sa sortie, est terriblement mal aimé par les moralistes. Il est aussi un peu mal aimé sur la longueur par les cinéphiles. On va reprocher une certaine pesanteur à la mise en scène d'Autant Lara, une méchanceté un peu dans son film. Et c'est vrai que c'est un film qui va devenir un peu le symbole de vraiment cette tradition de la qualité qui va être beaucoup dénoncée par la nouvelle vague. Et en vérité, c'est très injuste parce que je l'ai revu là, justement, pour préparer cette séquence. Et j'avais oublié à quel point ce film est vraiment malaisant, mais intense, avec un travail de lumière, des mouvements d'appareil splendides et une férocité Une misogynie, je dirais, mais qui renvoie vraiment à la cruauté inouïe de l'époque. Ça gagne à être revu. Et Michel Prel, il joue avec beaucoup, beaucoup d'intelligence et de passion son personnage. Et le scandale qui est venu avec le film, Michel Prel ne l'a jamais regretté. C'est un personnage avec lequel elle a vraiment fait corps et dont elle était particulièrement fière.
Et ça reste une date importante, évidemment, dans sa filmographie. On va écouter un petit extrait de ce Diable au corps.
Comme tu es calme.
Parce que je sais ce qu'il va nous arriver.
Dis-le-moi.
Il quittera François.
Tu es folle. Pourquoi veux-tu que je te quitte?
Je ne le veux pas. Mais tu me quitteras parce que je suis trop vieille pour toi.
Oui, trop vieille. Beaucoup trop vieille.
Dans 10 ans, toi, tu seras jeune. Moi, je serai vieille. Alors, je ne pourrai que souffrir. Si tu me quittes, je mourrai. Si tu restes, ce sera pour me faire plaisir. Et je serai malheureuse de devoir sacrifier ton bonheur. Peut-être même je t'en voudrais. Non, je ne t'en voudrais pas.
Voilà, c'est la scène de la promenade en barque hein, avec Gérard Philippe et Micheline Prel, qui a tenté, comme les autres, une petite aventure aux États-Unis, mais qui n'a pas marché, qui a tourné court.
Non, alors c'est un exil un peu à rebours des autres, hein, puisque Gabin, Morgan sont partis durant la Seconde Guerre mondiale et ils reviennent. Et c'est le moment où elle s'en va.
Ouais.
Elle s'en va, bon, pour différentes raisons professionnelles, mais aussi des raisons amoureuses, en fait. Elle va se marier là-bas avec Bill Marshall, acteur, producteur, qui avait été précédemment, d'ailleurs, le mari de Michel Morgan, c'est un peu étrange.
Et qui sera le papa de sa fille, Tony Marshall, la réalisatrice.
Exactement, voilà. Avec qui Michel Prel travaillera d'ailleurs à la fin de sa carrière. Hollywood, elle ne fait pas grand-chose. Elle va travailler avec Fritz Lang, mais son propre aveu sur le film le moins intéressant de Fritz Lang, Guérillas. Et c'est vrai que c'est un film que je ne connais pas du tout, par exemple, donc il n'est pas resté vraiment dans les annales. Elle doit faire l'affaire Cicéron pour Mankiewicz, mais en fait, c'est le moment où elle tombe précisément enceinte de Tony Marshall et donc elle laisse le rôle à Daniel Darieux, en fait. Et donc, même si elle croise beaucoup d'acteurs et beaucoup de cinéastes importants, en vérité, elle ne fait pas grand-chose. Et après 7 ans de contrat avec la Fox, elle revient en France et elle s'aperçoit à ce moment-là qu'on l'a un peu oubliée, qu'elle n'existe plus. Elle n'a pas d'explication, mais c'est comme ça. Et donc, elle vit là un moment un peu plus difficile. Elle va quand même avoir, alors elle est un peu injuste quand elle fait ses mémoires, parce qu'elle aura quand même de très beaux rôles, notamment chez Jean Grémillon, chez Guitry, qui va beaucoup l'employer. Mais c'est vrai qu'elle est un peu débordée par une nouvelle génération d'actrices qui arrivent, Romy Schneider, Brigitte Bardot. Et finalement, elle va redevenir une immense vedette en France, mais par la télévision.
Ouais, grâce à la télé, c'est assez moderne finalement comme parcours pour l'époque. En effet, entre 65 et 1970, il y a Sainte-Chérie, qui est une série de la télévision avec Daniel Gélin et avec Micheline Prel.
Ouais, série imaginée par Nicole de Buron, réalisée par Jean Becker, et qui est une formidable satire de la transformation des mœurs françaises pendant ces fameuses 30 glorieuses. C'est le portrait d'une famille moyenne, assez satirique. Et il faut le dire que la série doit énormément à Micheline Prel, qui tient à la perfection un petit ton caustique en permanence dans série. Alors par la suite, effectivement, elle va essayer de continuer sa carrière au cinéma. La modernité d'une nouvelle vague ne voudra pas d'elle, mais une autre modernité, un peu plus tardivement, la prendra un peu sous ses ailes. Elle tournera pour Jacques Demy, pour Claude Chabrol, pour Alain René.
Ouais.
Voilà. Donc, ce qui est vraiment remarquable quand on fait un peu le bilan de sa carrière.
Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce parcours de comédienne un petit peu atypique quand même de Micheline Prel?
Absolument. D'abord, elle a toujours joué ses personnages avec beaucoup d'autorité. On l'a un peu entendu là dans le son qu'on a passé. Il n'y a pas de minauderie dans son jeu.
Non.
Il
n'y
a pas aussi de distance pour créer du désir et de grands mystères. Elle disait que finalement le cinéma le faisait pour elle, notamment le noir et blanc. Elle aimait beaucoup le noir et blanc qui créait le mystère autour des acteurs-actrices. Et elle disait pour elle finalement, le jeu doit être le plus simple et le plus sincère possible. Et elle avait cette diction absolument parfaite, on l'a entendu techniquement, mais comme ensoleillée de l'intérieur, je dirais, qui lui donne toujours un pouvoir narratif. Elle a beaucoup chanté aussi. Et alors c'est intéressant parce que dans le fond, elle chante un peu comme elle parle un peu comme elle chante. Il y a quelque chose d'assez rayonnant et en même temps de très franc, de très sincère, qui en faisait finalement une parfaite compagne de Jacques Français, qui a vu avec lui Micheline Prel vieillir tout au long de ses décennies.
Ouais.
C'est quand même une carrière assez impressionnante
et qu'elle a menée quasiment jusqu'à la fin, vous l'avez dit, ouais. Tony Marshall, sa fille, l'a fait tourner, mais aussi un cinéaste belge, Frédéric Socher, l'avait casté dans deux de ses films, si ma mémoire est bonne. Merci.
Et notamment, dernière apparition, c'est dans un documentaire de Socher, je pense, qui s'appelle « Je veux être actrice ».
Exactement.
Magnifique déclaration.
Vous restez avec nous, Dick. Après la pub, on va parler d'un tout autre parcours, un parcours à la fois de mangaka, mais aussi de cinéma et de littérature et de bande dessinée. On va évoquer la mémoire de Akira Toriyama.
Retrouvez tous les podcasts de la RTBF, dont de nombreux inédits, sur RTBF Ovio.